Livrodrome, c'est un gigantesque parc d'attractions littéraires en partenariat avec le CNL, le Centre National du Livre, et à destination des pré-ados et des ados de 10 à 18 ans, destinés à leur transmettre le goût du livre, de l'écriture et de la lecture. De nombreux ateliers avec des auteurs jeunesse ont été organisés et des rencontres autour du monde du livre les 24 et 25 juin dernier à la médiathèque Jacques Duquesne de Liévin. On vous propose donc aujourd'hui de se plonger dans l'univers fascinant d'un baroudeur culturel de renom, Dominique Zé, qui animait également deux ateliers lors de cet événement. En compagnie de Laura pour Radio PFM, on va donc évoquer avec lui le contenu de ses ateliers, son parcours et son travail. Dominique Zé, bonjour.
Ben bonjour.
Et puis avec ma complice Laura, on va essayer, je dis bien, de brosser un petit peu le tableau de votre parcours parce que vous avez fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, vous venez de sortir juste d'une ordonnance, c'est bien ça, d'une
oui.
Cabine ordonnance. Donc,
c'est-à-dire j'ai joué pour la première fois de ma vie le rôle d'auteur psychiatre. C'est-à-dire que les gens me parlent, ils se confient et je dois leur prescrire quelque chose. Donc c'est très... à la fois très, très étrange et un peu prétentieux, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Donc j'ai essayé de ne pas trop faire de pub sur mes propres albums, mais à un moment donné, quand il me parlait d'un thème qui correspondait, j'étais obligé. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ça. J'aurais bien fait le karaoké aussi, mais bon, je ne peux pas tout faire. Donc c'était bien que parce que normalement, il faut un peu de temps pour que les gens aient confiance. Et là, du coup, le fait qu'ils me parlent de leurs problèmes, ils me donnent confiance. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté un peu psy qui était amusant. Voilà, au second degré, évidemment, pas sérieusement.
Alors, justement, Boris le disait, vous avez fait énormément, énormément de choses. Ça passe par le polar, voilà. La BD, de la musique, du théâtre, des courts-métrages aussi.
Ouais.
Et donc là, vous venez de sortir aussi L'Évidence,
ouais.
Qui est un album et un concert dessiné qui est passé en concert justement à Amiens. Avec
oui.
L'orchestre d'Amiens.
Avec l'orchestre de Picardie,
ouais.
Oui. Donc il y avait l'orchestre qui était sur scène, donc il y a quand même une trentaine de personnes, un écran géant qui descend, la bande dessinée qui est la grande salle du théâtre de la Maison de la Culture qui est pleine, donc ça a de la gueule, quoi. C'est assez impressionnant. Et après, ce que je racontais à tout le monde, c'est que moi j'ai l'habitude de faire rire des salles, ou bien quand j'écris des polars, on dit que je suis un auteur avec le sens du dialogue, les choses comme ça. Et là, c'était muet. Et c'était que sur l'émotion, que sur l'humanisme et tout. Donc j'ai eu des réactions d'émotion, ça ne m'était jamais arrivé. Habituellement, ce sont des rires que je provoque. Et là, il y avait un silence. Puis ensuite, des applaudissements. Et les gens avaient les larmes aux yeux. Donc c'était très, très touchant. Et tous les témoignages que j'ai de cette bande dessinée, tous les retours se ressemblent. Quoi. Beaucoup d'émotion, parce que beaucoup d'humanisme. Alors il y a un pote à moi qui est chef psychiatre sur Amiens qui m'a dit que ça tombait pile poil dans un moment très anxiogène où les gens avaient besoin d'espoir. Je ne sais pas si ça l'a... La bonne analyse, mais bon, pourquoi pas.
Et dans cet album, justement, il y a des QR codes pour qu'on puisse écouter la musique
oui.
En même temps qu'on le lit.
Oui.
Ça vient d'où, cette idée de mélanger, en fait
C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai écrit la première mouture du scénario, je leur ai fait un time code. C'était vraiment à la seconde précise. Chaque idée de séquence, chaque idée du storyboard allait être comme un peu un vidéoclip. Comme j'avais travaillé en plus, que j'avais fait dans une période de ma vie des vidéoclips, donc c'est quelque chose qui m'a servi. Donc c'est vraiment, à chaque fois qu'il y a une rupture dans la musique, il y a une rupture dans l'histoire, il se passe quelque chose. Donc voilà. Le truc, c'est pas de le faire strictement au pied de la lettre, mais quand même, donc quand on met le QR code, on a comme le time code qui défile, on voit les images comme si on était au concert. Ça, c'est bien, c'est une bonne expérience. Ça m'a plu, ça.
Et vous avez d'autres actualités littéraires, notamment aussi, vous écrivez pour les adultes, donc avec un polar, Tu
ouais.
es l'ennemi.
Tu es l'ennemi, ça se passe à Amiens et sur la côte Picarde. Alors ça, c'est une histoire... En fait, pendant le confinement, je ne vais pas glorifier le confinement, mais j'ai pu faire deux tomes de ma bande dessinée et terminer un polar. Donc j'ai lu et j'ai écrit. J'ai beaucoup produit pendant le confinement. Et donc, c'est là, il se trouve que j'ai une triple actualité avec deux albums de bande dessinée Espoir. La différence, c'est qu'évidemment, la jeunesse, je vais m'arrêter à un moment donné, je vais traiter des faits sociaux et tout, mais je suis pas là pour traumatiser les jeunes lecteurs. Et, et là, c'est vraiment le livre, c'est un livre noir, quoi. Je vais jusqu'au bout de quelque chose dans la nature humaine qui n'est pas forcément joyeux, mais c'est. Voilà, c'est une femme qui va revenir plusieurs années après pour une histoire de viol et qui va se venger. Elle n'est pas contente du tout. Donc ça va dépoter.
Et le troisième livre que vous nous avez ramené, enfin c'est une BD aussi d'ailleurs, c'est Les Enquêtes polars de Philippine Lomar, c'est ça,
Oui, ça c'est une aventure que j'ai commencé en 2014. Et tous les ans, avec Greg Blondin, qui est au dessin, on fait un tome. Donc c'est un cocktail où il y a une enquête policière, un fait de société qui est éclairé, et puis pas mal d'humour pour faire passer tout ça. Donc ça se passe à Amiens, aux alentours, en Picardie. Mm-hmm. Et à chaque fois, on essaye d'éclairer un fait de société nouveau qui nous intéresse, qui tombe comme par hasard bien avec l'actualité. Donc il y a eu le racket, il y a eu la violence conjugale, il y a eu la pollution. Voilà, à chaque fois, on va... Le dernier, ça parle du handicap. Et voilà, tous les ans, on en fait un avec Greg, et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'a pas encore fait. On essaye de monter un peu la barre, et c'est quelque chose... Oui, j'ai beaucoup de plaisir à faire, mais là, pour le coup, là, il y a beaucoup de textes. Là, ça joue vraiment sur les dialogues, sur le... Alors, à chaque fois, on me dit, oui, ça fait penser à des répliques à la Audiard, ou des choses comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je le prends comme un compliment. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de musicalité dans les dialogues. Ça, c'est bien. C'est plutôt bien.
Vous parliez tout à l'heure de confinement, comme quoi vous aviez écrit beaucoup pendant le confinement. C'est une petite question un petit peu bateau, mais pour les artistes, justement, les auteurs, les scénaristes, les dessinateurs, les musiciens aussi peut-être, est-ce que cette période, même si elle était anxiogène au vu du contexte sanitaire, est-ce que ça a été quelque chose quand même de bénéfique, voire prolifique pour les artistes en général? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que pour les artistes en général, non. Pour les auteurs, ça ne change pas tellement de notre vie, parce que nous, à part le côté social, on va aller dans les salons, on va rencontrer les lecteurs, mais sinon, on est chez soi, on est tout seul, et on aime bien ça. Moi, j'ai un côté, je suis une bête sociale, j'aime bien le contact, mais j'aime bien qu'on me foute la paix, j'aime bien être tout seul avec mes chats, chez moi, et du coup, c'est ça ma vie. Et c'est vrai que le confinement, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Mais je sais que les copains qui sont intermittents du spectacle, j'ai une copine qui est régisseuse et tout, d'un coup, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien. Ça leur a manqué, évidemment. Moi, ça ne changeait pas grand-chose de ma vie. En plus, j'ai le bonheur de vivre avec une femme qui est peintre, donc c'est pareil. Elle est à son atelier, moi, j'allais à mon bureau. Elle peignait, j'écrivais, donc ça ne changeait pas grand-chose. Bon, après, ce qui changeait, c'est le contact, quoi. Les salons m'ont manqué. Je suis très content de reprendre des salons. Ah oui, ça m'a manqué. Parce que de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir des gens, ça, c'était dur. Mais sinon, non. Le masque aussi, mais comme tout le monde. Hein, donc, voilà. Moi, je suis plus agacé par d'autres choses que ça, en fait. Je savais, je ne veux pas jouer les Bill Gates, mais je me doutais qu'on aurait un virus qui nous tomberait sur le coin de la figure. Je n'ai pas été si étonné que ça, quoi. Voilà. Il y a des mouvements de sociétaux comme ça que j'arrive à sentir, puis d'autres pas. Celui-là, je ne l'ai pas pris comme une surprise. Je trouvais que... Ouais, je n'étais pas si étonné que ça. Voilà.
Puisqu'on a parlé de salon, si je ne dis pas de bêtises, sur le Livrodrome, vous allez animer un atelier tout à l'heure?
Tout à l'heure, oui. Alors, généralement, j'amène avec moi des jeux. Mm-hmm. Donc j'ai amené un jeu de dés, un truc que j'ai inventé. C'est pour les gens qui n'ont pas d'idées. Qui n'ont pas d'idée d'histoire, c'est les dés qui décident.
Ah ouais.
Donc en un jet de dés, on décide si c'est l'extérieur ou l'extérieur, c'est le jour, c'est la nuit, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe dans quel lieu, etc. Donc comme ça, pour les gens qui disent « moi je ne sais pas quoi écrire », j'ai dit « il n'y a pas de problème, on va faire ça au dés ». Sinon j'ai des cartes aussi, là j'ai choisi les dés, j'aurais pu amener les cartes, j'ai un espèce de jeu de poker comme ça. Donc là, ça peut être aussi les cartes. Voilà. C'est le côté ludique un peu pour dédramatiser la chose, parce que finalement, quoi qu'on écrive, c'est comment on l'écrit qui compte, c'est pas tellement l'idée, c'est un prétexte.
Du coup, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez préparé?
Là, pour l'atelier pour,
ouais, c'est de l'écriture, du coup?
Là, ça va être de l'écriture. Alors, je pousse, une fois que, si jamais les gens ont fait un petit texte, une petite nouvelle, s'ils ont une idée, après, je leur propose de faire l'illustration.
D'accord.
De ce texte, comme si c'était une couverture. Et si ensuite, s'ils sont encore chauds, s'il y a encore le temps, je ne sais pas si on a... Là, je leur propose de faire la première page d'une bande dessinée avec les cases. Donc je vais juste comme ça, si j'ai le temps, d'aller jusqu'au storyboard.
Génial.
Mais déjà, le fait qu'ils inventent une histoire et qu'ils fassent une illustration, c'est déjà très très bien. Parce que je leur demande de trouver un titre aussi. C'est important, le titre. Donc, une idée d'histoire, un titre, un dessin, c'est déjà pas mal. En trois quarts d'heure, une petite heure, quoi. Ouais. Mais normalement, j'y arrive. je trouve les arguments pour y parvenir. Ouais.
On va quand même parler un petit peu de votre parcours, parce qu'il y a plein de choses. On se demande encore ce que vous n'avez pas fait. Parce qu'il y a vraiment...
Il y a des choses que il y a un truc que j'ai enlevé dans le CV, donc je ne sais pas si je peux vous le dire. Parce qu'il y avait en gros, je voulais tout essayer. Dans une première partie de ma vie, je voulais tout essayer ce qui se passait sur scène. Et donc, j'ai entre autres fait du musical, où j'ai même fait du striptease masculin à une époque. Et je l'ai enlevé de mon CV parce que tout le monde... « T'as fait du striptease masculin ?» Je dis « Ça, je vais l'enlever. » Donc, je fais la connerie d'en parler à la radio, mais bon, c'est pas grave. Et donc, à un moment donné, c'était la scène. Je voulais tout essayer, la danse, le musical, le théâtre, le cirque, etc. Et après, j'ai quitté le côté scène, le côté voyage, le côté tournée, pour ne faire que l'écriture. Et là, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas d'écrire que pour un seul médium. Ça m'intéresse d'écrire pour plein de médiums différents.
Ouais. Mais quand même, en 73, vous créez avec d'autres, certainement, la compagnie Zéro de Conduite, c'est bien ça ?
Oui,
c'est... Et c'est un épisode important, quand même.
C'est un épisode très, très fondateur pour moi, parce que le cirque et cette compagnie... Alors, c'est une époque où c'était pas des compagnies, on était des troupes, on vivait vraiment troupes, en oui, communauté. Exact. Donc, c'était une sorte d'autogestion généralisée, où on gagnait le soir une somme d'argent, on divisait... en temps de part, plus une pour la gestion de la troupe. Donc, il n'y avait pas de chef et tout, sauf que c'est vrai que j'étais un peu l'homme à tout faire, quoi. J'écrivais les pièces, je faisais la musique, je faisais la mise en scène. Et je regrette, avec le temps, de ne pas avoir insisté sur l'importance que je mettais sur l'écriture. Parce que j'écrivais la nuit, comme ça, et les gens ont... J'ai pu laisser croire que c'était évident et facile. Or, c'était un boulot... Comme par hasard, ceux qui ont continué après sur ce chemin artistique ont fait du théâtre de rue sans texte. Donc je crois que j'ai fait une erreur là-dessus. J'ai voulu faire croire que c'était facile, qu'il n'y a pas de structure dramatique, qu'il n'y avait pas de tout ça. Bon, ça c'est une coquetterie de l'époque. Je me pardonne, hein, je ne veux pas me flageoler, mais si c'était à refaire, je pense que j'insisterais sur le côté comment on écrit un personnage, sa psychologie, comment on le fait évoluer, tout ça. J'insisterais sur cette technique-là. Quoi. Mais oui, ça a été très important pour moi. En plus, c'était une période complètement libre, puisqu'il n'y avait pas de virus, hein. Il y avait du travail, on pouvait tourner très facilement. Et nous, on avait pour habitude de jouer dans des endroits un peu extra-théâtre. C'est-à-dire qu'on disait, on joue éventuellement dans les théâtres. Donc on a joué dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons et tout. Donc c'est une période de ma vie que j'aime beaucoup. Mais c'est une période où il faut avoir, qui correspond à des années jeunesse. Il fallait avoir la pêche, quoi, parce qu'il y avait zéro confort, zéro sécurité. Et donc il faut avoir l'énergie de faire ça.
C'était la grande époque aussi, la troupe du Splendide, les Charlots, si on se souvient bien, c'était la liberté totale, le renouveau en fait.
Oui, c'était très créatif, et il semblait qu'on n'avait aucune limite. En plus, à l'époque, on ne le vivait pas comme un truc extraordinaire, on pensait que ça allait continuer comme ça. Pour ça, maintenant, avec le temps, on réalise que c'était une période un peu spécial au niveau des libertés, au niveau de la création. Et quand le vent a tourné, à la fin de ma troupe, les Zéro-Conduite, j'ai vu que l'administration commençait à gagner, l'argent commençait à revenir. Après, dans les artistes, il y avait le culte de la célébrité, il fallait être célèbre ou pas, donc il fallait passer forcément par les médias et tout. Donc on a vu les choses se bouger. Et moi, j'ai arrêté pour devenir auteur et j'étais très content, quoi. J'ai juste fait une petite incursion par le monde du cinéma qui ne m'a pas énormément plu. C'est pas un milieu que je trouvais que c'est beaucoup lié à l'argent, et j'avais l'impression de fréquenter des gens de plus en plus cons. Donc je me suis dit, si je fréquente des gens cons, je vais devenir con. Donc je me suis éloigné de ce milieu-là. J'ai gardé quelques contacts avec des gens. Il y a toujours des exceptions, mais c'est pas un milieu qui m'a séduit, le cinéma. J'ai bien aimé le théâtre, j'ai bien aimé le cirque, et là j'ai bien aimé la famille du polar. En bande dessinée, je retrouve un peu cette famille d'ailleurs que j'ai connue dans le polar. Ça, ce sont des milieux que j'aime bien. Mais c'est vrai que le cinéma m'a un peu déçu. Je reste fasciné par la magie du cinéma. Je suis un bouffeur de films, je suis un bouffeur de séries, mais beaucoup de films. Mais par contre, la fabrication, moins.
Oui, parce qu'il y a eu des courts-métrages aussi. Ouais. C'était différent ou c'est...
Les courts-métrages, c'était zéro centime. C'est-à-dire, je suis arrivé à Alga, qui était là où on prenait les locations de matériel. Et je disais, j'ai besoin d'une grue, j'ai besoin d'un dolly, j'ai besoin d'un ride traveling. Et je lui dis, mais j'ai pas d'argent. La patronne m'a dit, mais enfin, vous faites du cinéma avec du rêve ou quoi ? Puis je me suis fait engueuler, puis à la fin, elle m'a dit, allez, chargez le camion. Donc c'est à l'époque, ça s'est passé comme ça, j'avais zéro centime. Et j'ai rencontré la chef opératrice de Romer à l'époque. Mmh. Ensuite, j'ai rencontré qui m'a dit, je te fournis une équipe, il n'y a pas de problème. Donc je les ai fait avec zéro centime. Mais après, quand il a fallu que je travaille sur un long métrage, j'étais plus à l'aise du côté scénario que du côté réalisation. Parce que là, on touche vraiment des budgets avec beaucoup d'argent et on rencontre des producteurs. En tout cas, à l'époque, moi, j'ai rencontré des producteurs qui m'ont pas, qui me plaisaient pas.
D'accord.
J'aimais pas ce monde-là. Et ensuite, j'ai reproché beaucoup de choses à ce milieu, entre autres le comportement avec les femmes, d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup de copines actrices qui vivaient les essais comme des humiliations. Et moi, je suis pas une femme, mais j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Et là, maintenant, avec le mouvement MeToo, on se rend compte que... Et du coup, j'ai revisité... Je me souviens d'un livre d'un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Melville, où il racontait dans son livre... Et maintenant, aujourd'hui, ça serait plus... On pourrait plus, ça sera plus audible. Il racontait qu'il avait un lit de camp, parce que quand il faisait passer des essais aux comédiennes, c'est bien pratique et tout, voilà. Et aujourd'hui, je me dis, personne ne pourrait s'autoriser à dire ça. Donc ça a vraiment bougé les lignes, et ça, c'est bien. C'est un des trucs que je n'aimais pas, moi, dans ce milieu-là. Le fait que les rapports de force se traduisent par un droit de cuissage, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, j'ai trouvé ça vraiment... Je trouvais que c'était dégueulasse. Donc ça ne m'a pas plu. Le côté trop d'emprise sur le... On parlait budget. Il fallait parler fric tout le temps. Donc on se demandait quand est-ce qu'on allait parler cinéma, quoi. Donc j'étais un peu déçu par ce milieu-là. Ça m'a appris pour... Ça m'a servi pour... Je m'en sers pour les scénarios de BD, mais j'aimais plus être à ma place de scénariste avant le grand débarquement, quoi. Voilà. Sinon, j'ai écrit, j'ai quand même fait pour des séries quelques merdes. Mais bon, c'était pour le chèque, quoi. C'était ouais. Ça m'a pas procuré plus de plaisir d'auteur, quoi. Je suis beaucoup plus satisfait avec la bande dessinée ou le polar, parce que là, c'est mon univers, c'est quelque chose, j'ai l'impression que j'ai pas de limites, quoi. Il y a moins l'effet commande, déjà, c'est sûr. Ouais. Mais disons qu'aujourd'hui, oui, je suis auteur. Voilà. Donc j'écris pas que des livres, j'écris de la bande dessinée, je peux écrire pour le théâtre. Ce que j'ai le plus écrit, en fait, ce sont des pièces de théâtre. J'ai arrêté là parce que j'ai rencontré les gens de la bande dessinée, je suis revenu dans le polar, mais pendant une période, je crois que j'en ai écrit en tout 18 pièces. Ouais. J'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre. J'adorais le écrire et m'imaginer le plateau, tout comme j'adore imaginer le dessin pour la bande dessinée. Voilà. C'est quelque chose, je me projette bien là-dedans. J'aime bien les acteurs, j'aime bien les actrices, j'aime bien ce que sont les gens. Et là, aujourd'hui, j'ai compris un truc en ce qui concerne les dessinateurs. Donc j'aime bien penser à un dessinateur précis, lui créer une histoire pour lui, parce qu'il va rajouter un plus, il va sublimer mon texte, et c'est un truc de... Voilà, complémentaire qui me plaît bien. Je ne sais pas si c'est très clair.
Non, mais on sent que vous vous êtes nourri justement de toutes ces expériences.
Oui.
Par la suite, quand vous êtes devenu auteur.
Complètement. C'est les expériences qui m'ont... Et puis, il y a aussi, au niveau vie... Alors maintenant, il y a un truc que je fais qui va compléter ma vie, parce que j'ai une vie un peu pépère maintenant. À l'époque, je me nourrissais de la vie que je menais. Et maintenant, je continue à faire des ateliers un peu limites avec des publics dits difficiles, parce que j'ai besoin d'apprendre. C'est pour ça que je continue à aller en prison, par exemple. Et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ne veulent pas y aller. Je leur dis, vous faites une erreur, parce que c'est moins agréable et c'est plus dur, les conditions, que d'aller dans un collège. Mais moi, quand j'arrive en prison, je leur dis, je vous préviens, mais je vais vous piquer des trucs. Je suis là, je vais vous voler des histoires. Donc moi, j'ai envie que vous me racontiez comment on fait un casse à la carte bleue, combien ça coûte un jeu de faux papiers, parce que sinon, s'ils me disent, ouais, mais on n'a rien fait, si vous êtes innocent, je me barre, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'apprendre des choses. Donc j'y vais, c'est un peu intéressé, mais à la fois, je dis ça, mais c'est le... Je plaisante, c'est vrai que je vais les faire écrire, et ils écrivent des choses, c'est magnifique et tout. Mais il y a un moment donné, j'ai envie qu'ils me racontent aussi. Je n'ai pas envie de savoir pourquoi ils sont là, ça ne m'intéresse pas. Des fois, on se charge de me le dire, les surveillants, je ne préférerais pas. Parce que surtout quand je fais des centres de détention, il y a des 20 ans de prison, je me doute bien qu'ils n'ont pas piqué une tranche de jambon. Quoi. Mais je veux qu'ils me racontent, ça m'intéresse, moi. Les choses que je ferai pas. Moi, je vais pas raconter des histoires polaires où je tonds la pelouse de mon jardin. Donc
sauf s'il se passe quelque chose avec la tondeuse.
Voilà, s'il se passe quelque chose d'inattendu. Ouais. Mais en général, ouais, c'est pour ça que les ateliers que je peux faire dans ces milieux-là m'intéressent beaucoup. Donc avant, c'était des SDF, mais là, c'est plutôt des migrants à Paris, avec Amaïs Solidarité. J'ai continué les centres de détention. Pas les maisons d'arrêt, les centres de détention, les longues peines. Ce qui est... Alors, c'est comme les salons, je mets un petit drapeau rouge. Quand il y a des centres de détention qui ne m'ont pas bien reçu, je n'y retourne plus. Et c'est jamais les prisonniers, c'est souvent les matons. Là, j'ai eu une expérience, je ne vais pas dire le nom, parce que je n'ai pas envie de foutre des gens dans l'indélicatesse, qui se fassent virer ou quoi que ce soit. Mais par exemple, j'ai attendu trois quarts d'heure dehors. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais écoutez, il est presque 15h, j'avais un atelier à 14h, et la personne m'a dit, c'est moi qui décide qui c'est qui rentre et quand. Ah. Bon, très bien, je n'y retournerai plus. Faut pas non plus... ça va, quoi. Mais alors, ça dépend un peu des endroits, et les endroits, on est très merci, d'autres pas, donc je mets un petit drapeau rouge, puis je n'y retournerai plus. Bon, voilà. Mais ça m'intéresse de continuer à faire ça. Je fais des demi-journées, parce que maintenant que je ne rajeunis pas, moi je marche à l'énergie, donc c'est vrai que je ne peux pas rester une journée. Puis c'est, psychologiquement, ce n'est pas évident. Je sais pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas y aller, parce qu'il y a beaucoup de sas. Donc déjà, il ne faut pas être claustro en prison. J'ai beaucoup de copains qui me diraient, mais moi je ne pourrais pas. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre d'entendre un schlag derrière, puis d'avoir un schlag devant, puis d'attendre dans un couloir et sans fenêtre. Puis on attend, puis on repasse à un autre sas, puis à un autre sas, puis on arrive dans une toute petite pièce et tout. Donc c'est un peu. Il y a deux règles il y a des règles à respecter. Il ne faut jamais être seul. Il faut toujours qu'il y ait un accompagnant. Ça, c'est évident. Parce que sinon, on ne sait pas.
Bah, peut-être avant de passer à un questionnaire de Proust.
Ah, mais vous avez préparé un petit questionnaire.
Ouais. Je suis très mauvais à ce truc-là. Je vais essayer de me surpasser. Oui.
Bah, juste avant de passer à ça, je vais vous demander pourquoi vos écrits se déroulent plutôt à Amiens. Vous êtes originaire de Picardie, si je dis pas de bêtises, ouais. Et puis vous habitez peut-être à Amiens, vous êtes en tout cas.
J'habite à côté, oui, dans la campagne à côté, mais c'est pas. Ouais. Au début, j'avais fait le premier tome où j'avais pas géolocalisé l'histoire, ça pouvait se passer dans n'importe où. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas beaucoup d'histoires à Amiens. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire des histoires qui se passent à Amiens, puis maintenant c'est l'endroit que je connais le mieux.
Oui, vous connaissez peut-être la vie associative ou des choses
comme
ça.
Oui, c'est ça. J'ai travaillé un peu partout. Faut même trouver les endroits où j'ai pas travaillé tellement. J'ai travaillé avec une association qui s'appelle le Cardan pendant très longtemps. J'ai travaillé dans pratiquement tous les centres culturels et tout. Donc maintenant, je travaille de temps en temps à Paris ou en banlieue parisienne, dans les quartiers. Mais j'ai beaucoup travaillé à Amiens. Donc c'est vraiment l'endroit que je connais le mieux, quoi. Bon. Et à chaque épisode, on se demande avec Greg, le dessinateur, avec Greg Blondin, quel est l'endroit qu'on n'a pas mis là. Par exemple, on n'avait pas mis le stade de football, donc on a mis le stade de football. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas branché foot, c'est lui, donc c'est très bien.
Eh bien, du coup, on va passer au questionnaire de Proust. Alors, si vous étiez un instrument...
Le violon.
Parce que je crois... Alors, on a lu que vous appreniez un instrument par jour.
C'est un instrument par an.
Par an.
Oui, par an.
Par jour, ça fait un peu beaucoup. Oui.
C'est un instrument par an de 20 à 31 ans. Donc, j'ai gardé la batterie, le violon et la guitare. Mais disons que le violon, il me fait tellement de reproches quand je l'abandonne que c'est l'instrument que je trouve le plus beau, mais qui est très très dur. Avec la trompette, il nous le fait payer quand on n'en fait pas. Mais le violon, je trouve que c'est un instrument magnifique. Mais là, j'ai arrêté. J'ai juste gardé la guitare, la batterie et le violon. Parce que sinon, je pouvais pas. Mais c'était comme les clowns, quoi, qui disent « je vais jouer un morceau bien l'année prochaine ». Moi, je faisais ça. Et puis après, je laissais tomber l'instrument ou je le gardais. Et c'est vrai que la guitare, la batterie et le violon, c'est des instruments qui m'ont accompagné pendant pas mal d'années. Ouais.
Si vous étiez un village de Picardie.
Toi, THOX, il y a un petit château. C'est le premier village où j'ai atterri. Mm-hmm. Et c'est magnifique, quoi. Et il y a un cimetière qui est plus dans la Somme, qui est dans l'Oise. Et les gens qui meurent, ils font un dernier voyage, ils changent de département quand ils vont au cimetière. Je trouvais ça l'idée très poétique de faire un dernier voyage pour aller se faire enterrer au cimetière de Troyes. Et puis il y a des balades extraordinaires, j'ai beaucoup aimé cet endroit. Mais c'est loin de tout, donc pour aller prendre le train, on peut ne pas utiliser les routes pendant 15 jours s'il neige et tout, donc c'était un peu compliqué, mais j'aimais beaucoup ce village.
Ouais. Il y avait un petit piège quand même, puisque Laura est originaire de Norrois.
Ah, d'accord.
Donc du coup, on se dit, si dit Norrois, c'est... Voilà. Si vous étiez un homme politique.
Un homme politique, alors...
Ou une figure politique.
Oui, je comprends bien. J'hésite entre Gisèle Halimi ou Nelson Mandela. Parce que pour moi, Gisèle Halimi était une femme politique. Donc, ouais. Nelson Mandela m'a bien bluffé quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui me bluffent. Il y a Vaclav Havel, Nelson Mandela. J'ai bien aimé Taubira à un moment donné, un peu moins depuis qu'elle s'est présentée. mais ouais, allez, Mandela.
Ok. Et François Ruffin, vous en pensez quoi puisque vous...
François Ruffin, je parle très régulièrement. C'est quelqu'un que j'aime bien. Je suis pas complètement. Moi, je suis pas un militant. Donc, il y a un moment donné que. Quel que soit le bord politique, mais c'est vrai qu'il y a un bord politique que je préfère. Mais disons que quand je retrouve le sectarisme, au bout d'un moment, je bloque un peu. J'aime bien discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui n'ont pas la même sensibilité, parce que je trouve qu'il faut faire attention à pas mépriser les gens qui pensent autrement, parce que l'erreur que je reprocherais à la gauche, pas forcément à Ruffin, mais à pas mal de gens que je connais de gauche, c'est de s'être coupé justement des quartiers populaires où je continue à intervenir. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est vrai que les gens véhiculent des clichés, parfois racistes, parfois je sais pas quoi, mais il faut faire attention, quoi. C'est pas de l'élitisme non plus d'avoir une certaine pensée politique. Il ne faut pas confondre. Et donc, des fois, je trouve que leur côté militant devient trop sectaire pour moi. Donc, j'aime bien les provoquer un peu. J'aime bien... ouais, je fais un peu de la provoque avec lui. Mais on rigole bien, on discute. Hein.
Ouais. Si vous étiez un prix Nobel...
Oh là là...
Ça va Mandela, peut-être, non?
Ouais... J'aimais bien, il y avait un, alors j'ai plus le nom, un prix Nobel, je crois que c'est de philosophie, qui avait fait un discours en disant « je fais mes adieux au patinage artistique ». Le type, il avait presque 100 ans, j'aimais bien son discours. Ouais. Ouais, je trouve ça magnifique, je trouvais que c'était une bonne leçon de philosophie. Ouais, Mandela, ouais.
C'est pas quelque chose qu'on retrouve sur un site internet avec une fausse biographie, ça?
Oui.
Il me semble.
Oui,
hein.
Je fais mes adieux. Je l'ai piqué.
Je pensais quand j'ai vu le patinage artistique, je dis mais il a vraiment tout fait, c'est pas possible. Non, et après, j'ai vu que c'était une fausse biographie.
Oui, je fais mes adieux. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai plus l'âge. Je sais que je commencerai pas le patinage artistique, c'est foutu. Donc je fais mes adieux. Autant le faire parce que bon, j'y arrive pas.
Si vous étiez un insecte.
Un insecte, ça dépend. Si je suis avec des gens que j'aime bien, je vais être une libellule. Mais si je suis avec des gens que j'aime pas, je vais être un cafard. Ça dépend dans quel lieu je me retrouve.
Si vous étiez une plante.
Une plante, oh, je vais choisir de la menthe ou du coriandre. Voilà.
Alors ici, vous étiez un personnage de polar.
Philippe Marlowe. Ah. Vraiment Chandler.
Okay. Ça.
Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin d'Adieu ma jolie, il retrouve le coupable de ce qui lui a causé plein d'ennuis. Et le type, il dit, mais tu m'en veux? Il dit, non, je t'en veux pas, mais à cause de toi, j'ai perdu mon chat. Il le flingue. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre.
Ok. Ah, vous aimez les chats. Donc, oui. On est tous d'accord, ben, ça tombe bien.
Donc, je peux m'imaginer tuer quelqu'un parce que mon chat est mort à cause de lui, oui.
Quelque chose qu'on n'a pas, je crois, retrouvé dans votre parcours. Si vous étiez un jeu vidéo.
Oh là là, je n'y connais absolument rien.
Ah, enfin.
Je suis largué, mais alors là, je crois que je n'ai jamais joué à... Jamais joué à un jeu vidéo, c'est un truc, je suis passé complètement à côté de ça.
Mais ça peut être une prochaine aventure. Ouais.
Non, j'ai même des copains qui faisaient des scénarios pour jeux vidéo, qui m'ont proposé, je leur dis, mais j'y connais rien du tout, quoi. Donc là-dessus, je suis nul, vierge, rien à faire.
Eh ben, merci beaucoup d'être passé par nos studios, Dominique Zé, et puis à bientôt.
À bientôt.
C'était un sujet réalisé depuis le studio mobile de PFM lors du Livrodrome qui s'est déroulé à Liévin en juin dernier. Un entretien avec Dominique Zé, baroudeur culturel haut et en couleur, qui animait deux ateliers lors de cet événement. Interview réalisée avec la complicité de Laura pour Radio PFM.